Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition du gang d'élite des lectrices, insolente et turbulente. Complice d'un crime, Stéphanie.
Bonjour.
Chiffonnette.
Bonjour.
Et en guest star avec nous aujourd'hui, Amanda.
Bonjour.
Au sommaire de cette deuxième édition du gang d'élite, un roman de la rentrée littéraire, Le Bon Larron, de la science-fiction avec une auteure française, Joëlle Vintrebert, de la jeunesse avec cette fois-ci une thématique avec des crocs et du sang autour des vampires, de l'adaptation cinématographique, un petit détour par Copenhague, des bandes dessinées et des beaux livres, sans oublier, comme d'habitude, notre rubrique Internet. Alors, notre guest star, Amanda, va nous parler d'un roman de la rentrée littéraire, Le Bon Larron, d'Anna Tinti, je ne sais pas comment on dit.
Eh bien, écoute, moi non plus, Fashion, je ne sais pas comment on dit, on va dire Anna Tinti. C'est un roman dont Cuné a parlé récemment, et c'est ce qui m'a donné envie de le lire. Il s'appelle Le Bon Larron. Alors, Le Bon Larron, c'est Rennes. Rennes est orphelin, nous sommes en Nouvelle-Angleterre au 19e siècle. Il est manchot et grand.
Ça part mal,
il n'a vraiment pas de chance. Et il grandit donc dans un orphelinat de la Nouvelle-Angleterre. L'orphelinat est géré par des frères, et quand on est manchot, donc, on a peu de chances de se faire adopter. Il est beaucoup plus probable que les religieux nous vendent à l'armée un peu plus tard quand on sera devenu grand, parce que malheureusement les religieux ne peuvent pas nous garder tout le temps. Ren grandit donc, observe régulièrement ses camarades qui viennent à être adoptés, eux, par des fermiers, qui viennent chercher un fils qu'ils n'ont pas eu, un ouvrier qui leur manque. Il les regarde avec beaucoup d'envie, mais se dit qu'avec sa main en moins, lui, il a vraiment peu de chances d'être adopté. Or, un beau jour, un jeune homme arrive à l'orphelinat. Il s'appelle Benjamin et cherche son frère. Voyant que Ren est manchot, il le reconnaît et part avec lui en disant que son frère effectivement a perdu une main, son frère qu'il a perdu depuis très longtemps, était quelque part dans un orphelinat. Donc les deux hommes partent ensemble, enfin les deux hommes, Benjamin et Ren partent ensemble. Ren va découvrir la vie de Ben, une vie de voleur, de pilleur de cadavres, d'escroquerie. Mais Ren, bien qu'il ait été élevé dans un orphelinat, va très très vite se faire à cette nouvelle vie. Il faut dire qu'il est assez doué et que même avec une main en moins, c'est un chatardeur de première, un voleur de premier ordre, et les livres disparaissent très très vite sous son pull, son manteau ou coincés dans son pantalon. Alors voilà un très très bon roman qui va accompagner notre hiver. Un roman qui va nous entraîner dans un univers dickensien qui est soigneusement gothique avec ce qu'il faut de baroque. Je tourne ma page parce que j'ai préparé, je ne suis pas aussi habituée que les trois autres. Donc je tourne ma page avec ce qu'il faut de baroque et d'imaginaire pour nous faire oublier l'hiver et le froid. Il y a des voleurs qui fraient avec des cadavres, des nains qui fraient avec des becs de lièvre, des pilleurs de tombes et des vendeurs d'élixirs magiques. Il y a des aventures rocambolesques, des situations glauques et parfois drôle, des cadavres qui reviennent à la vie, et je peux vous dire que je me suis interrogée à un certain moment du livre en voyant un cadavre ressuscité en disant non, qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est en train de partir en vrille, et bien pas du tout, tout a un sens. Donc c'est à la fois glauque et drôle, Ren va perdre son innocence tout en gardant au fond de lui une certaine part d'enfance. C'est un roman savoureux qui réunit des personnages qui sont follement truculents et qui sont justement le point fort du roman. Un nain qui vit sur les toits et qui passe par les cheminées pour chaparder ou manger une tranche de pain et un peu de lard. Un assassin donc qui est revenu des limbes. Un voleur au grand cœur de pierre. Des orphelins qui sont frappés par le sort. Des médecins qui achètent des cadavres. Une logeuse sourde et bienveillante. Oui, c'est un univers qui est fait de brume et de ruelles sombres, de grisailles et de misère, de gouailles, de hardes, de maisons branlantes, d'usines où on fabrique des souricières. Un univers qui est frénétiquement romanesque, qui est souvent d'ailleurs comparé à celui de Tim Burton. Et d'ailleurs, je ne peux que confirmer cette ressemblance avec l'univers de Tim Burton, et je verrais bien une adaptation avec Johnny Depp dans le rêve.
C'est bizarre, on la sentait venir celle-là.
Vous sentiez venir Johnny Depp? Alors, Johnny Depp dans le rôle de Benjamin, le grand frère, Elena Bonham Carter. Il est vieux. Ah, mais attends, dans Charlie et la chocolaterie, il jouait le rôle d'un jeune homme. Il a un visage très très jeune. Elena Bonham Carter.
Quand il est photoshopé.
Quand il est photoshopé. On photoshopera s'il le faut. Il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Elena Bonham Carter, donc, qu'on photoshopera un petit peu dans l'autre sens pour la vieillir, dans le rôle de Mrs. Sands, la logeuse, ou, sans la photoshopper, dans le rôle de Bec de Lièvre, la jeune ouvrière. Je verrais bien également Alan Rickman dans le rôle de McGinty.
Oh oui,
je choisis soigneusement le comédien dans la filmographie de Tim Burton pour faire rougir sa chaîne. Donc voilà, c'est un univers qui est très visuel, qui est souligné par une narration qui est à la fois dense pour les aventures de notre bande de voleurs, et romanesque pour le style qui est très pictural, qui est très très rythmé. Donc c'est un bon livre, de belles aventures, un livre de Noël, un livre qu'on lit pour se faire plaisir et qui fait vraiment du bien. Et c'est sorti chez Gallimard. Et la couverture, effectivement, comme on l'a dit plusieurs fois, la couverture est
rose, moche,
absolument immonde, avec un espèce de punk.
Même pas, un jeune homme un peu vampiresque d'ailleurs.
Un jeune homme un peu vampiresque, oui, effectivement, il est blanc, un peu trop de fond de teint, il est très moche.
C'est la même maquilleuse que pour Twilight.
C'est la même maquilleuse. Alors, j'ai pas vu Twilight, mais bon, bah, si c'est ça, je n'allais pas voir Twilight, de toute façon, je n'ai pas envie d'aller voir. Alors voilà, moi, ce que je fais, c'est que je vire la jaquette et je garde la belle couverture de la collection Gallimard du monde entier, qui est beaucoup plus belle. Voilà, c'est tout ce dont je vais parler aujourd'hui.
Eh ben, en tout cas, moi, ça m'a donné envie.
Eh bien...
Et moi aussi. On va se battre maintenant.
Aujourd'hui, Chiffonnette va nous parler de science-fiction avec un auteur français, une femme, Joëlle Vintraubert. Je pense que c'est comme ça qu'on dit.
J'en suis absolument pas sûre du tout.
On va l'appeler Joëlle, alors.
On va l'appeler Joëlle, ça sera plus facile pour nous. Alors, donc, Joëlle, un écrivain majeur de la scène de science-fiction française, qui est aussi auteur de romans pour la jeunesse. C'est un écrivain qui publie depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Je l'ai très récemment découverte grâce au recueil de nouvelles publié par les éditions Le Bélial, qui couvre une grande partie de sa production. La couverture est... Au passage, absolument magnifique, elle est signée par Casa, c'est un plus certain.
Moi, je la trouve moche, personnellement, mais...
Chacun ses goûts, sa chiotte. Amanda, ça suffit.
Moi, c'est pas comme ça,
j'aime Casa. Voilà, d'abord, j'assume totalement. Je trouve que pour une fois, c'est une couverture qui est vraiment jolie et qui correspond au contenu.
D'accord, je la trouve très verte, quand même.
Ouais, comme ton dirait un oud.
Oui, on dirait un peu un oud, exactement.
Mon Dieu. Les fans du docteur ont encore frappé. Bref, donc, Joëlle Vintraubert, c'est un très beau recueil qui permet d'explorer l'univers et les thématiques de cet auteur passionnant. En fait, c'est tout ce que j'aime en SF. C'est des textes qui font rêver. On découvre des univers, des planètes, comme Hydra, la planète émeraude. Et c'est surtout un recueil qui présente des textes profondément intelligent. Les nouvelles de Joëlle Vintraubert sont porteuses d'une réflexion passionnante sur le monde, sur l'identité sexuelle, sur le rapport à l'autre, sur les systèmes politiques, la résistance ou la révolte, la violence sociale. Chaque nouvelle a été pour moi vraiment un émerveillement. Il n'y en a aucune qui m'a moins plu qu'une autre.
Il y en a combien dans le recueil ?
19 exactement. Et un appareil critique le plus conséquent qui permet d'explorer un petit peu et l'histoire de la SF et le travail de Joëlle Vintraubert. Les textes sont tous très forts en fait, souvent poétiques. En tout cas, ils sont toujours évocateurs et touchants. Et ce qui est très agréable, c'est que l'auteur ne sombre jamais dans la facilité. Elle porte sur le monde un regard qui est d'une très grande finesse. Et à aucun moment, on a l'impression qu'elle oublie la complexité des ressorts politiques, culturels et sociaux des phénomènes qu'elle aborde dans ses textes. C'est un très très beau recueil, un très bon moyen de rentrer dans l'univers de l'auteur. Et j'ai, dans la foulée, puisque j'y étais et que
j'ai tombé
en amour avec son œuvre, lu Le Créateur Chimérique. Alors, il y a une petite particularité avec Le Créateur Chimérique. C'est que c'est un roman qui suit une nouvelle très longue qui s'appelle La Créode. Hein. C'est celle qui donne son titre au recueil dont je viens de parler. C'est une nouvelle qui raconte le devenir d'un être qu'on appelle un Oudar. Et ça se passe sur une planète qui s'appelle Farkis. Par la suite, Joëlle Vintraubert a écrit un roman qui s'appelle Le Créateur Chimérique, qui reprend au départ la nouvelle et qui après la poursuit l'histoire.
Alors elle reprend la nouvelle, vraiment, elle reprend la nouvelle mot à mot.
Le début de la nouvelle. Extrêmement similaire.
Mais pas tout à fait le même.
Pas tout à fait pour moi en tout cas. Bon, après je les ai lus à un ou deux mois d'intervalle, donc il y a des choses qui avaient eu le temps de s'effacer, mais on retrouve vraiment le déroulement d'histoire, les personnages, et elle l'a étoffé pour en faire un roman en écrivant la suite de l'histoire tout simplement. Alors l'histoire, donc sur la planète Farkis vivent des êtres qu'on appelle les Zoukdar, qui donnent naissance par sissiparité à un double parfait. Il n'y a aucune relation sexuelle. C'est de cette manière-là dont ils se reproduisent. Mais il y a un Zoukdar qui s'appelle Dambala, qui est déjà un petit peu en révolte contre la société dans laquelle il vit, qui met au monde un double blanc. Et c'est une différence qui va provoquer d'une part la vénération. Le double va être l'équivalent d'un dieu, et ça va basculer à la haine, et obliger donc le double et son géniteur à la fuite et à la lutte. Alors par contre, c'est un roman qui m'a moins plu. Il a été primé en 1989, mais je trouve que par rapport à la nouvelle, il y a beaucoup moins de force. Bon, il souffre, on va dire, de quelques longueurs et d'ellipses qui sont parfois un petit peu gênantes. Mais ceci dit, c'est une très très belle réflexion sur la différence et une manière d'étudier une société dans laquelle la différenciation sexuelle n'existe pas et donne lieu à d'autres types de différenciation et donc de conflits ou de luttes ou de discrimination. C'est assez révélateur de l'univers de l'auteur, de ses thématiques phares, et c'est aussi un moyen de la découvrir un petit peu plus. En tout cas, j'ai, pour ma part, très envie de continuer à lire son œuvre, et je la recommande très très chaudement.
Alors, pour ceux qui participent au challenge SF de Gishan Eddy, on rentre ça dans quoi? Le Planète Opéra?
Anticipation.
Anticipation.
Certaines nouvelles relèvent plutôt du Planète Opéra, d'autres moins, d'autres plutôt du Space Opéra, d'autres de l'anticipation plus récente, donc c'est assez difficile de faire un classement, même pour le créateur chimérique.
D'accord.
Alors, en jeunesse, mais pas que, Stéphanie va nous parler des vampires.
Bah oui, parce que les jeunes effets parfaits, les fashion victimes, les porteurs sains ou malades, comme le soulignait un hebdomadaire il y a peu, ne sont plus que des lointains cousins des mythes fondateurs et même du Dracula de Bram Stoker. Les vampires d'aujourd'hui, je vais vous en parler avec une liste totalement non exhaustive et absolument dans le désordre. Donc, bien sûr, je vais commencer par le plus connu d'entre eux, qui est actuellement Edouard. Edouard.
Tu connais pas absolument pas, voyons.
Et donc, vous connaissez
quelqu'un qui est en Angleterre?
Edouard.
Donc, une certaine famille royale?
Voilà,
c'est un enfant de loup-garou.
Elle a vraiment une vieille frangue à Docteur Who quand même.
Donc, je vous rappelle qu'elle
était compagnie.
Edouard est immortalisé pour le pire, pas souvent pour le meilleur, par Robert Pattinson au cinéma. Donc Stéphanie Meyer qui a réécrit dans la saga de l'amour impossible.
Non, c'est la saga du désir interdit. Mais c'est pas grave, c'est joli aussi l'amour impossible. Sauf que bon, ils finissent par concrétiser, hein. Je vais pas spoiler. Oups.
Donc qui a réécrit dans cette saga le mythe du vampire qui devient végétarien, se pose des questions sur le devenir de son âme, et les loups-garous dont Jacob et ses tablettes de chocolat sont des défenseurs contre cet ennemi sanguinaire, pas tellement sanguinaire puisqu'il est devenu végétarien. Parmi les romans jeunesse vampires, vous pouvez retrouver par exemple V comme Virus de Scott Westerfeld, qui revient au sens du vampirisme qui devient une maladie avec ses porteurs sains ou pas. Et l'auteur de Uglies propose une histoire aux limites du vampirisme qui a un peu de mal à démarrer. J'ai trouvé ça pour les deux romans, mais qui se révèle passionnante à partir du premier tiers. Alors, un deuxième volume vient en plus étancher la soif de la lectrice.
La végétation.
Je l'ai cherché. Mais comme l'auteur, en fait, a pris le parti de changer de héros principal, j'ai retrouvé encore une fois le même problème du récit qui est un peu longuet à démarrer.
Le deuxième volume, c'est A comme Apocalypse.
Voilà, c'est ça.
Que personnellement, j'ai littéralement adoré, tout comme les virus. J'ai trouvé que ça partait au contraire sur les chapeaux de roue, comme quoi...
Ah, comme quoi, on n'a pas la même vision. Donc, recommandé par Chiffonnette et par Brandon. Alors, dans la série Les vampires sont des minets qui s'ignorent, et on peut retrouver Les vampires de Manhattan de Mélissa de la Cruz. Donc, en plusieurs volumes, la saga n'est d'ailleurs toujours pas finie. Après le volume 4, on suit les aventures d'une sang-mêlée, Théodora, fruit des amours d'une mère vampire et de son familier. Si vous voulez, c'est son garde-manger, en fait, un familier. Les vampires ici, ils vivent, ils meurent, mais ils renaissent à chaque cycle grâce à une goutte de sang. Et ils se transforment d'humain en vampire à la fin de l'adolescence. Le tout leur permet de vivre comme vous et moi, donc ils vont au soleil, il n'y a pas de problème avec les lunettes de soleil. Si on n'avait pas le besoin de temps à autre de mordre un familier pour se rassasier en sang.
Ce n'est pas des vrais vampires.
Ben non.
Non, c'est, une, c'est un vampire un peu différent.
Donc, c'est plus un vampire quoi.
Alors ce qui est intéressant par rapport au roman, c'est tout, en fait, les vampires donc ont des noms d'aujourd'hui, mais ils sont en fait des grandes figures mythologiques. Ou dans les faits, c'est aussi léger que Gossip Girl, parce que c'est quand même les vampires de Manhattan. C'est très huppé, mais personnellement, j'ai été étonnée, je me suis laissée happer par l'histoire.
Et, c'est parce que tu es une midinette.
Voilà.
Et je suis souvent de toi, ton petit cœur tout beau à 14 ans.
Voilà, c'est ça. Ça doit être ça. Donc, à noter le 4e volume qui vient de sortir. Et là, j'ai quand même trouvé qu'il y avait un peu d'abus à vouloir continuer sur un 5e volume, alors qu'il y avait une vraie possibilité pour l'auteur de clore la saga. Et en ne gardant que le meilleur. Ça, j'ai un peu peur que ça ne se renouvelle pas sur le 5e. Alors, même si je suis une idée qui s'ignore au fond de moi-même et qui n'a que 14 ans, par une série qui est quand même beaucoup moins adolescente, Trouble de Charlene Harris. Donc là, c'est encore différent. On reprend le mythe du vampire, sauf que cette fois, il peut devenir officiel, parce que les vampires sortent de la clandestinité grâce au True Blood, qui est un sang synthétique. Donc les vampires n'ont plus besoin de mordre, eux aussi ont leur tofu, si on peut dire.
J'allais dire des OGM, mais...
Et heureusement, nous sommes vraiment loin des minets qui sont en Prada et qu'on retrouve dans Vampire en Manhattan. Plus que les livres, d'ailleurs, qui sont bien, mais personnellement, vu que j'ai vu le premier volume en anglais, j'ai peut-être loupé certaines nuances. Je vous conseille la série, donc cette fois de quitter vos livres et de regarder la télé. Donc la série qui est sortie en DVD pour l'Angleterre et qui passe actuellement sur le câble. Parce que deux livres qui sont à la limite du harlequin pour la version anglaise, ils en ont fait quelque chose d'irrévérencieux, de sombre, d'ironique, d'insolent, et rien que le générique vaut franchement le détour. Donc Trouble, c'est sur vos meilleurs clés et c'est à ne pas manquer. Et j'en profite, même si ce n'est pas une saga, mais j'espère bien que ça va le devenir, pour vous rappeler que le Machu de Lycam est toujours disponible et il est acheté dans tous les bonnes librairies.
Et ça va devenir une série puisque Lycam, qu'on a rencontré avec Pinel, nous a dit qu'elle était en train d'écrire le 2e.
Et bien, c'est parti. Une excellente nouvelle puisque le premier est absolument fabuleux.
Voilà, il est publié chez Griffe d'encre.
Une très très bonne maison d'édition pour ceux qui ne connaissent pas.
Et c'est mal de ne pas connaître.
Effectivement, très très mal.
Qui ne connaît pas Griffe d'encre?
Pas nous.
Et maintenant, notre rubrique Il n'aurait peut-être pas dû, avec Stéphanie.
Alors, pas encore dans vos salles, ça sert d'aller en week-end à Londres pour être star.
La snobillarde.
Tu étais avec moi, je te rappelle. Bright Star de Jane Campion, qui raconte la passion qui unit le poète John Keats et Fanny, alors là je ne sais pas le dire, Brown, John et Fanny on va dire. Donc en 1818, le poète de 23 ans rencontre la jeune femme de 18 ans, et malgré la situation de Keats qui ne lui permet pas d'épouser Fanny, ils finissent par se fiancer après une première maladie de Keats. Celui-ci ne récupérera jamais et malheureusement il meurt à Rome en 1821. Donc c'est une passion courte, malheureusement. Quincy a connu à son époque, Keats a été redécouvert plusieurs fois, surtout aidé par son image de poète romantique et maudit, puisqu'il est mort jeune, et donc son histoire passionne encore. Et elle a passionné la réalisatrice Jane Campion, qu'on connaît grâce, entre autres, à la leçon de piano, qui en tire un film lumineux. Donc elle a utilisé les lettres d'amour qui sont connues, qui a écrit John Keats à Fanny. Et donc c'est un film lumineux, surtout par la présence des deux interprètes. Elle a réussi à ne pas tomber dans le mélo, grâce à une mise en scène sobre, qui s'autorise quelques envolées lyriques et poétiques, mais juste assez pour pas tomber dans le
dans le mièvre et dans le dégoulinant de bons sentiments. Il ne se passe pas grand chose et pourtant il se passe tout. C'est vraiment suggéré, mais également dit entre les deux jeunes gens. Et la poésie de Keats, c'est quand même l'histoire d'un poète, est disséminée tout au long du film et magnifiquement soutenue par une belle musique.
Comme dans la leçon de piano, par exemple.
Voilà, comme dans la leçon de piano, par exemple. Donc la voix de Ben Whishaw, qui joue Keats, est comme d'habitude magnifique. Je dis comme d'habitude parce que existe-t-il un seul acteur anglais avec une voix désagréable?
Ah non, ok.
Je ne veux pas savoir, ne répondez pas, laissez-moi mes illusions.
Ah, ok.
Voilà, on a les mêmes. Et Abby Cornish, elle campe une famille tout en retenue, délicate, fashion victim, puisqu'à l'époque, en fait, la jeune fille était passionnée par la mode et bien sûr amoureuse de son joli. C'est pour les romantiques, c'est pour les non-romantiques parce que c'est un film de Jeanne Campion. C'est à voir, c'est Bright Star de Jeanne Campion qui sort le 6 janvier dans tous les bons cinémas. Et que nous irons donc tous voir.
Tu me donnais très envie. De toute façon, j'adore Jeanne Campion. Donc.
Alors moi, je suis quand même sortie en allant acheter les poésies de Jeanne Campion. J'y avais bien pensé, mais mon accent anglais vous aurait trop fait envie. Donc,
après la jalousie, c'est plein de choses.
Voilà, donc c'est ça. Donc, je ne voulais pas être enviée à ce point-là. Qui m'a fait également réfléchir sur faut-il le lire en français ou en anglais. Là, je le lis en anglais en sachant que je manque sûrement des nuances. Oui. Mais est-il adéquat de lire une poésie traduite, en fait? Question difficile.
Pour la poésie, d'ailleurs.
Voilà, c'est vraiment critique sur la poésie. Il y a quand même les lettres dans le regard que j'ai acheté qui s'appelle Bright Star comme le film. Où là, en fait, effectivement, j'aurais pu les lire très vite. Et maintenant, la parole à Fashion.
Oui, alors moi, je suis allée voir Scrooge, un peu par hasard. Je ne vais pas vous raconter ma vie. C'était pas prévu. Je me suis retrouvée donc devant Scrooge. Alors en français, c'est le drôle de Noël de Scrooge, ce qui est vraiment une très très mauvaise traduction de l'anglais A Christmas Carol, donc un chant de Noël. Et ça dessert, je trouve, le film et le roman qui a été réédité en livre de poche jeunesse. Ça donne l'impression que c'est vraiment un roman pour tout petit, alors qu'en fait, pas du tout. Bon, alors, je reparle un peu du roman brièvement pour ceux qui ne sauraient pas du tout de quoi je parle. Donc, c'est un roman de Dickens, Charlie pour les intimes, même si je sais que Izzy déteste qu'on l'appelle comme ça. Alors, donc, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Scrooge. C'est un homme d'affaires d'une avarice sans nom, qui n'aime personne et que personne n'aime. Donc, un soir de Noël, le spectre de son ancien associé, qui s'appelle Marley, qui meurt au début du roman, vient lui rendre visite et lui annonce qu'il recevra la visite de trois esprits qui lui permettront peut-être de vivre des expériences qui lui permettront d'échapper à la damnation éternelle. Alors, ce n'est pas le roman que je préfère de Dickens, autant le dire tout de suite. D'abord parce qu'il est très court, il fait 150 pages. Donc ça permet pas, je trouve, à notre ami Charlie de déployer, comme il en a l'habitude, une multitude d'intrigues secondaires et surtout plein d'anecdotes concernant les personnages. Donc là, il n'y a que peu de personnages et finalement, il y a un seul personnage principal qui est Scrooge. Et c'est enfin un roman qui dégouline de bons sentiments. Bon, alors c'est toujours le cas chez Dickens, hein, il y a toujours des bons sentiments. C'est aussi pour ça qu'on l'aime. Mais là, comme le roman est court, ça fait un peu too much, ça va un peu trop vite. Parce que la rédemption, du coup, elle arrive très très vite. Je tiens aussi à dire qu'il a été réédité donc en livre de poche jeunesse et qu'il a été manifestement un peu retraduit. Et je trouve que la traduction est meilleure que celle que j'avais lue il y a quelques années. Voilà, c'est un détail mais qui a son importance. Alors l'adaptation donc de Zemeckis est très fidèle et cette volonté de fidélité donc est marquée dès le départ puisque ça s'ouvre sur le livre de le roman de Dickens dont un narrateur lit les premières lignes, et à la fin il lit carrément les deux derniers paragraphes. Ça se clôt sur deux derniers paragraphes qui sont vraiment repris à la lettre près. Donc du coup cette fidélité elle est marquée aussi dans les dialogues. Certains sont des décalques complets du roman. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a évidemment des scènes qui ont été tronquées, notamment la scène chez le neveu. Et en même temps, le film d'animation n'y perd pas du tout. Et il y a une scène rajoutée, la fameuse course-poursuite à la fin, que moi je trouve très très réussie, avec ces chevaux là qui sont sortis tout droit de l'enfer, et qui ne figurent pas dans le roman. La technique utilisée, je crois que c'est une variante du fameux motion capture, c'est-à-dire on fait jouer les acteurs, puis on les transforme en dessin animé. Voilà, je pense que c'est ça. J'ai trouvé ça très intéressant, surtout pour les décors. Les décors sont fabuleux.
Ouais.
Et j'ai trouvé que le travelling aérien qui ouvre le film est extraordinaire. On voit surgir le Londres victorien sous nos yeux,
exactement,
enneigé. C'est éblouissant. Et je pense qu'au cinéma, enfin, je ne suis pas sûre qu'avec un vrai film, on aurait obtenu les mêmes effets, en fait. Enfin, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai trouvé que là, ça se justifiait vraiment, ce choix technique. Bon, après, du coup, pour les comédiens, c'est parfois moins réussi parce qu'ils ont traité leur visage, mais ils ont été transformés. Alors, bon, Scrooge est formidable. C'est Jim Carrey qui a pris le rôle. Il est excellentissime. Par contre, évidemment, comme certains l'ont souligné, Colin Firth s'est enlaidi par le procédé.
J'ai beaucoup aimé, moi, Colin Firth enlaidi. Je trouve ça bien de ne pas se prendre au sérieux et d'être enlaidi, de l'accepter.
Oui, et puis il est très bien dans le personnage. Donc, évidemment, tous les acteurs jouent leur propre rôle, donc se doublent. Donc, évidemment, il faut voir la VO, hein, là la question ne se pose même pas, d'autant plus qu'il y a un travail extraordinaire sur les accents. Jim Carrey, qui est américain quand même, a un accent anglais, un accent qui m'a semblé, moi je ne suis pas une spécialiste, mais qui m'a semblé être un accent des faubourgs en fait, londoniens de l'époque. Il a une façon de manger les syllabes, une syntaxe qui reprend effectivement les dialogues de Dickens, qui est extraordinaire. Et donc, rien que pour le travail de Carrey, il faut aller le voir en version originale. Donc, j'ai trouvé que c'était une très très belle adaptation, visible à mon avis dès 8 ans. Je ne pense pas que ça fasse très très peur. Et bien sûr, il faut aussi quand même lire le roman, même si ce n'est pas le meilleur de Dickens, et que je ne peux que recommander de se plonger dans sa bibliographie, et de lire, alors là j'ai terminé il y a quelques temps, L'Ami commun qui est extraordinaire, De grandes espérances qui est fabuleux, Un conte de devis qui fait pleurer tout le monde, etc. etc. Voilà, mais celui-ci, à voir.
Je confirme, c'est un film à voir. Moi, je l'ai vu avec ma fille qui va avoir 10 ans. Je lui ai demandé de lire le livre avant d'aller voir le film. C'était la condition sine qua non pour que je l'amène au cinéma. Et elle a adoré et le livre et le film. Alors que nous, on l'a vu en VF parce que j'hésite encore à amener ma fille voir des films en VO sous-titré. Et bon, c'est pas mal en VF. Enfin, moi, ça m'a pas choqué du tout, même si je préfère la VO. Et ma fille s'est éclatée. On l'a vu en 3D, c'est hyper bien fait.
Moi, j'ai pas vu en 3D, et c'est très bien quand même.
Voilà, donc un film à voir en VF, voilà. En VO, en 3D. Pas en 3D, mais à voir tout court.
Et une nouvelle rubrique aujourd'hui, la rubrique voyage. Alors Stéphanie nous amène dans le froid, cette saison, à Copenhague.
Alors Copenhague, c'est pas seulement la ville du sommet, mais c'est aussi la capitale du Danemark, il ne faut pas l'oublier. L'emblème du bon vivre, l'autre capitale du vélo. D'ailleurs, attention.
Quelle est la première capitale du vélo?
Pour moi, c'est Amsterdam.
Ah d'accord. Non, j'avais peur que je vise Paris.
Paris, c'est la prochaine capitale du vélo. D'ailleurs, pour les vélos, faites attention à eux, parce que j'ai failli plusieurs fois me faire rembourser, pas par des voitures, mais par des vélos, c'est impressionnant le matin. Et donc Copenhague, c'est pour moi l'endroit où il faut aller en vacances. En tout cas, moi, j'y étais cet été, donc pas tant dans le froid que ça, j'y vais de longue. Et côté pâle, en plus, vous ne risquez pas grand-chose. Même s'il y a beaucoup de livres en anglais, une semaine ne vous suffira pas pour lire le danois. Côté Mirette, si on peut dire, bonne LCA, il faut absolument aller faire un tour à la bibliothèque royale du Danemark, qu'on appelle également le diamant noir, parce que l'architecte a réussi un pari, c'est-à-dire de prendre un vieux bâtiment très classique, de le réhabiliter avec une aile ultra moderne, donc c'est ce qu'on appelle le diamant noir qui donne sur la rivière qui traverse la ville, et vous rentrez par des escalators, hall majestueux, mais vous voyez de loin les rangées de livres, donc vous savez que vous êtes au paradis. Et
que tout est en danois.
Voilà.
Je prends dommage tout de même.
Et en fait, les beaux pas comme ça en déambulant vous emmènent sans vous en rendre compte dans la vieille aile, donc dans le vieux bâtiment, où là vous avez des salles de lecture absolument fabuleuses. Donc malheureusement vous voyez loin parce que effectivement pour pas déranger, vous ne pouvez que regarder à la va-vite par des portes vitrées. Mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Moi, j'y suis restée, j'ai pris mon bouquin qui était dans mon sac à dos et j'ai lu là-bas. et ensuite, à une demi-heure du train, d'ailleurs un train propre et confortable, j'étais jalouse en pensant au RER parisien. Et donc,
pardon, il y a des RER en ce moment.
Ah bon? Ah oui, non, pour moi, il n'y a pas des RER.
Il n'existe plus.
Donc, à une demi-heure de train de la
de Copenhague et 20 minutes de marche à peu près de la gare, vous pouvez aller visiter la maison natale de Karen Blixen. Les visites ne sont pas libres, vous commencez tout naturellement par l'étage du bâtiment d'accueil, où il y a une exposition qui retrace la vie de l'auteur. Bien sûr, ça vous donne envie de faire quoi ? De lire du Karen Blixen, qu'en plus moi je n'avais encore jamais lu. Donc la boutique attenante, faites attention, les LCA, c'est très très dangereux parce qu'ils ont toutes les traductions dans toutes les langues. Donc ils ont le bouquin français, mais je suis très fière de dire, j'ai résisté. Et oui, j'ai résisté. Et là, la visite continue sur la partie privée de la maison, où Karen Blixen a vécu jusqu'à sa mort. Donc je vais quand même vous rappeler qui est Karen Blixen pour celles qui ne sauraient pas, pour celles et ceux qui ne sauraient pas.
Non, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas,
mais
c'est
jamais.
Donc c'est l'un des figures, c'est l'une des figures majeures de la littérature danoise, qui est née en 1885, elle est morte en 1962, et elle a passé 17 ans en Afrique, ce qui lui a permis d'écrire son, ce qu'on appelle le masterpiece, le chef-d'œuvre, La Femme Africaine. Mais elle a écrit d'autres nombreux romans, et de son vivant, elle était déjà excessivement connue et célèbre. Voilà. Donc elle est retournée vivre en 1931 au Danemark, et en fait elle s'est installée dans sa maison natale, donc c'est cette maison qui sert de lieu pour le musée. Après en fait la visite de la partie exposition, on peut rentrer sur des heures fixes en fait, donc surveillées, dans la partie qu'on pourrait dire privée où là vivait Karen Blixen. Donc là c'est une maison d'écrivain, mais c'est aussi une maison de lecteur si on peut dire, parce que moi j'avais qu'une envie, c'est de m'asseoir encore une fois et de lire.
C'est pas possible, hein?
Non, en fait, on visite assez rapidement. Donc il y a un endroit où vous avez des projections vidéo, et il y a une interview de Karen Blixen qui avait été diffusée à la télévision danoise. Et il y a aussi donc en l'état toute la partie privée, donc la salle à manger, la bibliothèque, le salon principalement, plus une galerie de portraits où elle dessinait également. Donc il y a des portraits qu'elle a fait elle-même. Et c'est très intéressant. Alors moi je trouve toujours étonnant de dire oui c'était sa maison. À la limite on pourrait être dans une maison de quelqu'un d'autre, mais c'est très intéressant sur le témoignage de voilà d'une maison à l'époque telle qu'elle s'est arrêtée de vivre en 1962. Il y a des grandes fenêtres qui donnent sur un magnifique jardin qui en plus est très vert comme tout le Danemark. Donc c'est à voir. Que vous aimiez Karen Blixen. Et maintenant, dans l'ambiance apocalyptique de l'appartement de chiffonnette, ses voisins ayant décidé de faire des travaux. Non, ils ne sont pas en train de se plaindre du bruit que nous faisons. Chiffonnette et Fashion vont vous parler de BD à s'offrir ou à offrir peut-être.
Alors, je vais commencer avec une bande dessinée qui a déjà fait parler un petit peu d'elle sur la blogosphère. Il s'agit de l'œuvre de Rabaté, le petit rien tout neuf avec un ventre jaune publié chez Futuropolis. Allons-y pour un petit résumé de l'intrigue. Patrick a été plaqué par sa femme. Depuis, il déprime dans sa boutique deux forcés à trappe. Jusqu'au jour où il croise Clarisse, la belle acrobate, et où commence une belle histoire d'amour qui n'est pas forcément destinée à bien se terminer. Bon, Rabaté, c'est un auteur que je ne connais absolument pas, enfin que je ne connaissais pas du tout avant de lire Le Petit Rien tout neuf avec un ventre jaune.
Parce que tu n'as pas écouté la précédente édition où j'avais parlé de Rabaté et qu'il y a bien des choses.
Tu n'as pas voulu me le prêter, alors forcément j'ai été obligée d'attendre Le Petit Rien avec un ventre jaune.
Dans les ambiances apocalyptiques, comme le disait Stéphanie.
Oui, mais mes voisins ont décidé de refaire leur salle de bain, je pense, au jugé, là, comme ça, c'est sur la droite, en haut, tout ça. Bon, bref, donc Rabaté, une découverte pour moi, quoi qu'il en soit, et une très jolie découverte. Le Petit Rien, je vais l'abréger comme ça parce que c'est un petit peu long à dire. Le Petit Rien est une chronique douce amère de la vie quotidienne d'un monsieur tout le monde dépressif et de son entourage. Ce qui est très agréable, c'est que chaque tranche de la vie de Patrick recèle des petits bijoux d'absurde, comme ce passage absolument hilarant où il heurte une autruche, ou d'humour, avant de passer à des registres plus graves, voire tragiques. On passe par les ruptures amoureuses, la pauvreté, les suicides, la crise économique, les petites et grandes tricheries des uns et des autres. Rabaté n'oublie pas du tout les aspects plus sombres de la vie, mais sans jamais sombrer dans le pathos.
Je dois dire que c'est un auteur que je continuerai à découvrir avec grand plaisir, d'autant que j'ai beaucoup aimé son trait, qui est faussement simple. J'ai beaucoup aimé également les dialogues. C'est vraiment à découvrir et très très chaudement conseillé.
Alors moi je vais vous parler de plusieurs bandes dessinées. La toute première, c'est le dernier volume de Cap et de Croc, la série d'Hérol et Masbou, que certains connaissent donc, qui s'intitule Revers de Fortune, et qui raconte la suite des aventures d'Armand de Maupertuis et de Don Loup et de Vega, donc qui sont respectivement un renard et un loup, femme rhéteur, très lettrée, le sang chaud, comme on aime. Donc, on avait laissé à la fin du tome 8 nos amis, donc au tome 8 c'est le maître d'armes, on les avait laissés sur la lune, où ils étaient depuis quand même quelques volumes, ils étaient à la recherche du fameux maître d'armes qui n'est autre que Cyrano de Bergerac, et on les avait laissés donc en très fâcheuse posture, puisque le maître d'armes est prisonnier de Jean de la Lune, le très vilain seigneur qui veut pas être calife à la place du calife, et on pensait que Don Lope était mort. Bon, évidemment il n'en est rien, heureusement pour la lectrice qui a des palpitations. Voilà, pour la lectrice des palpitations. Donc, ce volume est la suite directe de l'aventure du précédent. Nos amis vont de nouveau s'élever contre Jean de la Lune et son pouvoir totalitaire. Et comme d'habitude, c'est excellentissime. Je me demande vraiment comment ils font pour se renouveler à chaque fois et pour avoir créé une série aussi cohérente et aussi sublime. Donc, on y retrouve tout ce qu'on aime. C'est bourré de verve, c'est plein d'humour. Il y a plein de références littéraires et culturelles. Alors, cette fois-ci, on va croiser par exemple le Masque de Fer, entre autres, et c'est génial. Voilà. Alors ensuite vient de sortir encore un Lanfeust. Donc je ne sais pas où ils vont s'arrêter. Ah, ça n'en finit plus. Je ne sais pas où ils vont s'arrêter. Alors cette fois-ci, le sous-titre, c'est Lanfeust Odyssée. Donc c'est toujours Arleston et Tartin qui sont aux commandes. C'est je ne sais plus la combientième de séries dérivées depuis le premier Lanfeust. Donc il y a eu Troll de Troie, il y a eu Lanfeust des Toits, il y a eu les mini trolls là, les bébés de trolls. Bon bref, je ne suis plus, il y en a beaucoup trop. Donc là, celui-ci s'intitule L'énigme hors azur. Apparemment, ça va être un diptyque. Et le pitch de départ, c'est que Lanfeust revient sur Troie, et si pour lui, au cours de ses aventures, il ne se sont écoulés que 2 ans, eh bien sur Troie, il se sont écoulés 20 ans. Alors on a un bon vieux paradoxe temporel au début, donc avec un décalage là, dans le temps, donc il ne retrouve personne, en même temps rien n'a changé, il y a toujours les stages des cumuls, etc. Franchement, on peut s'en dispenser. J'ai vraiment l'impression qu'ils tirent le filon, ils vont l'exploiter jusqu'au bout du bout du bout, tant qu'il y a des gens qui achètent, et tout ce qui me plaisait tant dans les séries initiales, et qui déjà me plaisait moins dans L'Enfance des Étoiles, c'est-à-dire cet humour complètement crétin avec des jeux de mots à 2 balles, et des situations débiles, eh bien, même ça, je trouve, on ne le retrouve plus vraiment dans cette histoire qui vraiment reprend exactement des choses qu'on a déjà vues. Alors, il y a les pépés déshabillés, le troll qui est désenchanté, qui faut réenchanter, les stages techniques, bon, voilà, quoi. Je trouve que ça commence à bien faire.
Le retour de la menace.
Voilà, exactement, le retour de la menace. Alors, par contre, le dernier Black et Mortimer, qui est scénarisé cette fois-ci par Vorab, que moi personnellement j'adore.
Que je vénère.
Voilà, qui nous a pondu quand même 13, Largo Winch, etc.
Des petites choses comme ça.
Voilà, des petites choses comme ça avec des sexy men inside qu'on adore. Donc c'est lui qui est aux commandes cette fois-ci donc, de ce premier volume. Je crois que ça va être un diptyque aussi. Donc ça s'appelle La malédiction des 30 deniers. Et comme les lecteurs perspicaces l'auront deviné, en fait ça renvoie évidemment à Judas, qui a vendu le Christ pour 30 deniers. Alors, j'ai trouvé ça très réussi. Bon, évidemment, il faut aimer Black et Mortimer, hein, parce qu'ils se sont coulés, donc que ce soit Vaughan, Stern ou Chantal de Spiegeler, qui je crois fait les couleurs, ils se sont vraiment coulés, évidemment, dans le moule donné par Jacobs au début, et qui a été repris déjà par pas mal d'auteurs, en fait. Vaughan avait déjà scénarisé, d'ailleurs, l'affaire Francis Blake et l'étrange rendez-vous, et c'était Sainte et Julliard qui étaient aux commandes des 3 derniers. Donc, on retrouve la ligne claire, évidemment. Une histoire à la fois très classique, donc nous avons de nouveau un mégalomane néo-nazi, cette fois-ci, qui veut prendre le pouvoir sur le monde, et évidemment, il va aller nous chercher le colonel Ulrich, que moi j'adore.
Ah,
voilà, il n'y a pas un volume de Black et Mortimer réussi s'il n'y a pas le colonel Ulrich. Il y a aussi cette façon de réinvestir la culture occidentale, donc là c'est Judas, donc nous avons
des scènes qui se passent dans un musée avec un personnage conservateur, et puis il a une jolie fille. Enfin, tout ça est très Black et Mortimerien, mais c'est très réussi et j'ai beaucoup aimé. Donc je recommande celui-ci. Vous pouvez l'acheter ou l'offrir en toute confiance, enfin si vous faites conscience. Et juste pour signaler la sortie du 12e volume de Sillage, qui est la série de science-fiction phare de Morvan et Bûcher, et que certains connaissent certainement déjà. Donc c'est l'histoire de Nevis, qui est une humaine, et qui est la seule humaine dans un monde qui est constitué, en fait, c'est une BD de Planète Opéra. Donc c'est un cortège, une espèce de... Il y a plein de vaisseaux spatiaux qui sont agrégés, qui voyagent de planète à planète pour trouver des planètes viables et les terraformer. Il n'y a que des extraterrestres dans cette espèce d'agrégat. Et la seule humaine, c'est Nevis, qui bien sûr va être l'héroïne, qui n'a pas froid aux yeux, qui est complètement impulsive, un peu déjantée, et qui est à la recherche d'une humanité qui a disparu, en fait, elle cherche ses congénères. Alors ce tome 12 ne peut pas se dire si on n'a pas lu le tome 11. Je préviens, d'habitude les histoires sont indépendantes, mais là ça fait plusieurs volumes quand même qu'on suit un peu la même histoire, et comme d'habitude il est très réussi, mais là je ne suis pas très objective parce que j'ai quand même une grande tendresse pour Morvan et Bûcher et pour cette série de science-fiction qui nous enchante maintenant depuis une bonne dizaine d'années. Et pour finir, quelques beaux livres à offrir ou à s'offrir. Donc Chiffonnette et Stéphanie vont nous en présenter chacun une, et c'est Chiffonnette qui ouvre le bal avec, il me semble, un livre rouge.
Un livre très très rouge, comme le personnage dont il parle. Si je vous dis Mao, je pense que ça va vous évoquer quelques petites choses. Ces grandes années du communisme, du maoïsme, etc., etc., la Chine, le grand bond en avant, enfin bref, plein d'événements historiques. Alors, le Mao est un très beau livre. Ça n'est pas un livre d'histoire, ça n'est pas vraiment un livre d'art, c'est un espèce de mélange entre les deux. Les deux auteurs sont collectionneurs, très fins connaisseurs de la Chine, et ils ont accompli un travail absolument époustouflant qui peut se voir comme une exposition amusante d'objets kitsch divers et variés, des timbres, des statues, des vases, des tableaux, des photographies, des tasses, des théières, des objets de la vie quotidienne, comme des objets absolument extraordinaires, mais c'est aussi et avant tout un témoignage absolument glaçant de la construction d'un culte de la personnalité. C'est très très bien fait, puisque chaque chapitre est entrecoupé d'une petite note explicative. Donc on voit progressivement la manière dont Mao va se retrouver au centre du régime et devenir l'égal d'un dieu. De quelle manière il va s'intégrer dans tous les objets de la vie quotidienne, dans tous les événements divers et variés. C'est vraiment passionnant de voir se construire ça. Le livre en plus est vraiment très beau, c'est-à-dire que les objets, que ce soit des reproductions ou des photographies, sont les images sont extrêmement bien reproduites, c'est très coloré, c'est absolument parfait. Les pages sont rouges, sont jaunes, il y a des calques, enfin, c'est un très 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 bel objet, très agréable à manipuler, et en plus c'est vraiment visuellement très très beau. Donc c'est très fortement recommandé. Là je commence à abuser des traits, mais en même temps il le mérite bien. Je recommande plus que chaudement ce très très bel ouvrage qui s'intitule Le Mao.
Et c'est publié par les Français ?
C'est écrit par des Français.
Gigalis et Claude Hudelot.
D'accord.
Robert. C'est publié aux éditions du Rouergue.
D'accord. Et alors Stéphanie, toi tu as lu quelque chose de totalement différent.
Oui, si je vous parle de musique et si je vous dis le prénom de Diana, vous allez me répondre.
Kroll ?
Diana ? Non, voyons.
Musique, hein. Oui, d'ailleurs, oui,
quand même.
Si je vous dis Marvin,
Gaye.
Si je vous dis Michael,
Jackson.
Et si je vous dis Steve,
Stevie.
Wonder.
Boulet.
Elle a osé, bravo. Non, c'est Stevie Wonder, et en fait, ils ont tous fait partie à un moment ou à un autre de la célèbre maison de disques, la Motown. Je vais vous parler du livre de Motown, Soul and Glamour de Florent Mazzoleni et Gilles Pétard, qui est sorti au Serpent à Plumes et qui est plongé dans l'univers de la Motown, très détaillé. Donc en fait, après une revue des différentes maisons de disques de l'époque, donc du contexte, des groupes, de la vie des Noirs américains dans les années 50, Les deux auteurs parcourent la vie et l'œuvre des différents groupes et solistes qui ont marqué cette maison de disques
mythiques.
Et tout est illustré par des photos de l'époque, par exemple la photo de Johnny Hooker m'a marqué parce que en fait j'ai toujours vu comme un vieux monsieur et les photos de Johnny Hooker jeune.
Il était jeune, ouais,
incroyable.
Il paraît très même qu'il serait né un jour et qu'il était un bébé.
Ah, c'est incroyable, on dirait jamais hein, quand même. Je le conseille pour les amoureux du genre parce que on rentre vraiment en détail dans l'histoire de la famille Motton, qui d'ailleurs savez-vous d'où vient le nom?
Pas du tout.
Détroit était appelé Motor City. Le fondateur de la Motton aimait bien dire Motor Town, donc Motor Town a donné Motton. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et il y a en plus dans le livre des très bonnes références littéraires.
Ah.
Je ne peux pas m'en empêcher de vous le lire. À propos de Smokey Robinson qui a marqué en tant qu'auteur, compositeur et interprète la maison. Si pour Stendhal le roman était un miroir que l'on promène le long d'un chemin, une chanson pour Smokey, c'est comme accrocher des mots à un miroir et regarder leurs images inversées.
Merci Stéphanie. Un petit peu d'Henri de panier.
Voilà. C'est un livre à offrir, à dévorer petit à petit. J'aurais un seul regret, c'est que pour parler d'une maison de disques, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un CD à coller au livre. Donc ce que je vous propose, c'est de le lire petit à petit avec 10 heures ou en tout cas un ordinateur à proximité et un site qui vous permet d'écouter en ligne la musique de la moto. Et en plus, j'aimerais en profiter si vous aimez le style soul et funk pour vous encourager à acheter le collectorama soul et funk justement des Vins Rock qui est disponible à la Fnac et qui propose 30 chansons, 10 inédits, 20 classiques sur le thème et avec un livret passionnant sur les 5 lieux mythiques de Souron. Donc il parle évidemment de la Motone et il y a divers interprètes de la Motone qui sont sur CD. Voilà.
Et enfin, pour terminer, donc notre petite rubrique « Que se passe-t-il sur le net ?» Donc, nous allons en profiter pour faire un petit point sur tous les challenges de l'année 2010, car l'année 2009 est terminée.
Ou du moins quelques-uns
des milliers de challenges qui fleurissent actuellement sur la blogosphère.
Oui, car ils sont très nombreux.
Alors, un petit coup de projecteur sur les challenges. Certains ont besoin qu'on parle d'eux parce que malheureusement, il n'y a pas trop d'inscrits. D'autres, au contraire... ont attiré les foules. Donc, dans le désordre, de manière totalement aléatoire, nous rappelons qu'il y a le challenge science-fiction chez Gaëchen Ellis, qu'on peut y participer quand on est un narrateur éclairé ou au contraire quand on n'y connaît rien, puisqu'il y a deux niveaux de challenge. Dans le même ordre d'idée, le challenge chez Blade et Laure, lire en VO s'adresse à deux catégories de personnes, ceux qui lisent une autre langue que la leur de manière amateur, et ceux qui, au contraire, sont parfaitement bilingues. Et à l'intérieur même des deux catégories, il y a des sous-catégories, puisque vous pouvez ne lire que 6 romans, ou lire 12 romans et plus. Donc c'est un challenge vraiment, il y en a pour tous les goûts. Pimpili a lancé le challenge Une année en Russie, où il faut lire, je crois, un auteur russe, ou deux auteurs russes, je ne me rappelle plus.
Deux, il me semble.
Deux ? Enfin, il faut lire des auteurs russes, donc on ne peut que vous encourager, par exemple, à lire Guerre et Paix de Tolstoï.
Tout à fait, c'est un roman absolument passionnant. Que j'aime d'amour très fort.
Moi aussi, j'adore.
Et est-ce que les deux romans comptent pour deux?
Ah, la tricheuse.
Non, je crois comme si on avait pas entendu la question.
Chez Karine, vous avez le challenge English Classics, qui est très facile à tenir, puisqu'il faut lire deux classiques anglais. Elle a fait une liste très détaillée.
D'ailleurs, je pense que c'est en dessous que je vais réussir à tenir cette année.
Voilà, celui-là, il est à notre portée.
Et si on le lit en anglais,
et si on le lit en challenge,
tout à fait.
Pour le prix. Voilà, on le cumule avec le challenge lire en VO. Chez Théoma, il y a le challenge Les coups de cœur de la blogosphère qui a remporté, je crois, un très très grand succès. Il y a énormément d'inscrits. Il s'agit de lire, il me semble, deux romans coups de cœur dans la liste que Théoma a proposée. Et enfin, le challenge à lire et à manger de Chiffonnette, qui va vous en dire deux mots mieux que moi.
Qui consiste tout simplement à lire un roman culinaire et à en adapter une des recettes. Rien de bien compliqué, accessible aussi bien aux cuisiniers débutants, puisque les ratages sont souvent aussi drôles que les réussites,
hein,
et aux cuisiniers confirmés.
Et l'organisatrice devrait avoir l'obligation de faire goûter cette recette aux obligations.
Ouais, je pense que vous devrez pouvoir organiser ça. Mais je ferai d'abord un crash test toute seule, si ça ne vous dérange pas trop.
Et enfin, toujours dans cette rubrique internet, le Lotobook a été lancé par Stéphanie dans la plus grande confidentialité il y a quelques semaines. Donc elle va vous réexpliquer le principe.
Alors, le principe, c'est une loterie. Pour participer, vous vous engagez à envoyer un livre. Et au terme de la fin des inscriptions, qui sera le 31 décembre, il y aura un tirage au sort, deux gagnants, le gagnant d'or qui recevra tous les livres sauf le sien, et en plus il ne saura pas qui est le gagnant, donc il découvrira ça devant sa boîte aux lettres.
Et c'est une expérience extraordinaire, je peux dire.
Ça donne généralement des coups de fil hystériques. J'ai gagné, c'est pas possible, comment t'as pu me le cacher?
Un grand souvenir.
Et le gagnant cactus qui recevra le livre du gagnant en or. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça coûte pas cher, ça peut rapporter gros. Et vous avez plus de chances de gagner que le remis.
En plus. En plus. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez éteindre votre ordinateur et vous remettre à lire.